France Musique.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un relax inédit, tout frais, pas en direct, confinement oblige, mais une émission faite à la maison avec la complicité de Flora Sternadel et Max James sous le titre « Confiné mais relax, une heure dans ma bibliothèque ». Et ben oui, parce qu'après tout, il y a beaucoup de bonnes raisons de se plaindre du confinement, mais enfin c'est aussi l'occasion d'écouter des disques, de lire ou relire des livres, de revisiter sa bibliothèque, ce qu'on va faire aujourd'hui déjà et toute cette semaine si tout va bien. Confiné, mais relax, premier épisode, allons relire et réentendre aujourd'hui Alfred Cortot. Alfred Cortot dans Les sons et les parfums tourne dans l'air du soir du premier livre des préludes de Claude Debussy. Il y a beaucoup d'écrits d'Alfred Cortot, ne serait-ce que ceux qu'il a donnés autour des partitions des compositeurs, de ceux qu'il aimait en tout cas, et qui sont pédagogiquement et même artistiquement encore aujourd'hui tout à fait lisibles, même parfois très inspirants. Mais il y a surtout trois livres édités entre 1930 et 1944, sous le titre « La musique française de piano ». Le premier en 1930, où on trouvait entre autres compositeurs Debussy, Chabrier ou César Franck. Le troisième en 1944, mais enfin, étant donné la date, avec les événements historiques, on se doute que la chose passa à peu près inaperçue. Et puis le deuxième volume qui va nous occuper aujourd'hui, en 1932, aux éditions Rieder, édition assez intéressante, puisque figurez-vous qu'elles fusionnèrent quelques années plus tard avec quelques autres maisons d'édition pour devenir les PUF, les presses universitaires de France. Cinq compositeurs étaient alors au programme, au moment où le livre paraît, qui sont, pour la plupart d'entre eux, soit encore vivants, soit morts il y a moins de 10 ans. Des contemporains donc, et c'est ce qui fait peut-être aussi l'intérêt presque émotif et sensible de cet ouvrage. C'est comme si aujourd'hui un Jean-Yves Thibaudet écrivait un livre pour nous présenter la musique de piano de Pesson, de Boulez ou de Larenman, tout simplement parce qu'il aurait envie de nous les faire découvrir. Et bien c'est ce que fait Cortot, avec toujours une façon de penser chez lui qui est très poétique, très métaphorique. Il a besoin de s'accrocher à quelque chose, à des pensées, à des images, à une histoire pour nous rendre les compositeurs vivants. On va commencer par le plus important d'entre eux, enfin en tout cas rétrospectivement et pour nous aujourd'hui, c'est Maurice Ravel. Maurice Ravel, le jeu d'eau joué au piano par Martha Argerich.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Je vous le disais tout à l'heure, Alfred Cortot écrit ce deuxième volume de la musique française de piano en 1932. Debussy est mort depuis une petite quinzaine d'années, Maurice Ravel est encore vivant, il est d'ailleurs en train de mettre la dernière main à ses deux concertos pour piano, mais l'opposition entre les deux est encore dans toutes les têtes. Et au moment où Cortot doit parler du plus jeune, Ravel, il ne peut éviter de le faire en comparant à son aîné, mais en soulignant toutes les différences qui font que la comparaison apparaît totalement abusive. Il dit par exemple de Claude Debussy: Debussy fixe pour l'éternité, et comme en se jouant, la fragile substance de l'improvisation. Quant à l'élection d'un titre, il semble ne s'y résigner qu'après coup, et presque à regret. Encore le choisit-il souvent assez imprécis pour qu'il puisse, ce titre, ne paraître qu'une sorte d'émanation verbale du sentiment exprimé par la musique, destinée à prolonger une sensation plutôt qu'à la définir. À l'encontre de ceci, Ravel accepte pleinement la discipline des formes éprouvées. D'un côté, un génie se manifeste sur le plan de la sensibilité, de l'autre sur le plan de l'intelligence.
Thank you.
Le premier mouvement de la sonatine de Maurice Ravel, joué au piano par Alfred Cortot. Le pianiste, on le connaît, est une sorte d'ogre. Il a beau avoir et exprimer beaucoup d'admiration pour les compositeurs dont il parle, il ne peut jamais oublier d'être qui il est. Par exemple, lorsqu'il cite cette phrase célèbre de Maurice Ravel, « Je ne souhaite pas qu'on interprète ma musique, il suffit de la jouer. » Cortot précise immédiatement « Oui, c'est bien joli tout ça, le texte est rien que le texte, mais il faut bien qu'il y ait un pianiste ou un violoniste derrière. Ce que l'on nomme une interprétation géniale, je le cite, n'est souvent que le fruit d'une conviction erronée, traduite avec enthousiasme. Mais le coup d'elle y est qui fait palpiter la pensée. » Et puis Alfred Cortot revient sur le mode pianistique de Maurice Ravel, sur le fait que chez lui, et ça peut vraiment être discuté, le piano est une sorte d'esquisse. Je cite Cortot à nouveau. La notation pianistique paraît souvent n'être pour Ravel qu'une sorte de premier état de sa conception. La liste serait longue de ses œuvres de clavier qu'il adapte ensuite à l'orchestre, comme si après avoir défini avec précision des lignes schématiques dans une version d'attente, il ne pouvait résister au plaisir de la coloration qui seule fera vivre la musique selon son dessin. On va laisser vivre une musique entière, si vous le voulez, ce sont les valses nobles et sentimentales.
Thank you.
Les valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel, version orchestre par Seiji Ozawa et l'Orchestre symphonique de Boston.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui confinés mais relax. Je suis chez moi face à ma bibliothèque, j'en ai saisi un volume, oh, pas n'importe lequel. La musique française de piano par Alfred Cortot, deuxième série, paru en 1932. Un livre très émouvant, très instructif aussi, on s'en rend bien compte, pour les mélomanes, mais aussi pour les amateurs, ce qu'on appelait ainsi dans les années 30, ce public qui existe beaucoup moins aujourd'hui, de gens qui étaient capables de jouer eux-mêmes du piano. Et on sent bien qu'Alfred Cortot non seulement nous parle des compositeurs, mais qu'il trace un véritable parcours à l'intérieur de leurs œuvres, avec l'idée peut-être qu'en déposant l'ouvrage, eh bien on ira vers son piano, on saisira une partition et on jouera de la manière dont il nous a engagés à le faire. Alors parmi les cinq compositeurs, un long chapitre consacré à Camille Saint-Saëns, beaucoup plus long d'ailleurs que celui consacré à Maurice Ravel. Cortot nous en parle comme d'un parfait professionnel, à l'esprit classique, ce qui est un peu contradictoire avec la première idée que ses contemporains ont eu de Saint-Saëns comme d'un jeune lion du romantisme, c'est-à-dire aussi d'une noirceur et d'un désespoir savamment cultivé. Cortot rappelle cette phrase de Saint-Saëns lui-même qui est absolument fondamentale pour lui et peut-être aussi pour l'après-romantisme. L'art a le droit de descendre dans les abîmes, de s'insinuer dans les replis secrets des âmes ténébreuses ou désolées, mais ce droit n'est pas un devoir. Thank you. Le final du cinquième concerto pour piano de Camille Saint-Saëns, Bertrand Chamaillou en soliste, Emmanuel Krivine avec l'Orchestre National de France. Je vous ai pas raconté encore quand j'ai fait l'acquisition de cet ouvrage. C'était il y a une dizaine d'années dans une petite brocante de région parisienne. Je l'ai payé, je crois, 5 €, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas très étonnant en soi, hein. C'est pas de la grande bibliophilie, hein, cette musique française de piano, de Cortot. Ça a été réédité plusieurs fois, entre autres dans la collection Quadrige dans les années 80. Bon, mais j'ai quand même une petite fierté sur cet exemple. Une dédicace du pianiste lui-même. Je vous la lis, sa dédicace. À Maroussia, avec toute ma respectueuse affection, Alfred Cortot. Signature vérifiée, hein, je vous le signale. Hein. J'ai beaucoup rêvé et beaucoup cherché autour de cette Maroussia, c'est un diminutif hein, pour Marie, enfin Maria en russe. J'ai rien trouvé jusqu'à ce qu'il y a 2 ans paraisse la grande biographie de François Anselmini et Rémi Jacobs. J'ai passé au crible ce livre-là en pointant toutes les Maries ou toutes les Marias d'ascendance plus ou moins russe que Cortot aurait pu rencontrer. Eh bien, j'en ai trouvé qu'une. Une certaine Maria Alexeyevna Olenina, vous savez pas du tout qui c'est, moi non plus, il a fallu que je cherche. Elle était née en 1869 en Russie, elle était chanteuse, était venue en France, avait épousé un écrivain français, traducteur du livret de Boris Godounov. Elle avait chanté régulièrement dans les années 1900 avec Alfred Cortot, à une époque où ce dernier était accompagnateur régulier de nombreuses chanteuses et de quelques chanteurs aussi. Elle avait eu un destin assez étonnant, puisque après ce bout de carrière, elle s'était installée comme professeure, et puis, en 59, sur le tard, elle avait presque 70 ans, elle était retournée dans sa Russie natale, qui venait de basculer, si j'ose dire, du stalinisme vers Khrouchtchev. Et c'est là-bas qu'elle mourut en 1970. Alors, je sais pas si c'est son exemplaire que j'ai récupéré des décennies après à travers cette brocante. Ce qui est certain, c'est que cette Maroussia, elle fait quand même bien rêver. Florent Schmitt sur un vieux petit cimetière, extrait des Crépuscules, joué au piano par Laurent Vachal, Schmitt à propos duquel Alfred Cortot écrit « L'ambition de ce compositeur en écrivant pour le clavier a toujours été, ce sont ses propres termes, que ses interprètes en aient plein les mains. Il arrive également, ce qui ne saurait lui déplaire, qu'ils en aient plein le cœur, et pour cause, c'est une musique d'un romantisme impénitent, émotive, elle l'est au suprême degré. »
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Dans cette musique française de piano, Alfred Cortot consacre encore un beau chapitre à Vincent d'Indy. Il est parfois un peu réservé sur les œuvres, il faut bien le dire, mais on sent qu'il a beaucoup de respect pour le personnage qui en imposait, d'Indy, bien évidemment. Mais en revanche, il devient lyrique dès qu'il est question de la symphonie sur un champ montagnard. Dit encore, symphonie Sevenol, le consentement ici, écrit Cortot, ne peut être qu'unanime et l'admiration sans réticence. Nul équivoque de sentiment, nulle saveur de procédé dans ces pages magnifiques, à la fois inspiré, réfléchi, l'air et la lumière y circulent à plein flot, et l'on pourrait affirmer que les oreilles s'y saturent d'oxygène.
Thank you.
Un extrait de la symphonie Sevenol de Vincent Dindy, joué par Catherine Collard au piano, l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Marek Janowski. On parlait aujourd'hui, je vous le rappelle, de la musique française de piano d'Alfred Cortot, volume 2, paru en 1932. Si vous voulez le trouver, ben, je crois qu'il doit être encore un peu disponible, sinon dans cette version ancienne, du moins dans la réédition tardive aux presses universitaires de France. Vous allez me reprocher peut-être qu'on n'ait pas beaucoup entendu Cortot au piano, mais il faut dire qu'il a quasiment pas enregistré les compositeurs dont il était question dans ce livre. Alors pour refermer quand même et pour leur trouver un niveau d'inspiration stratosphérique, voici Alfred Cortot dans la musique de Frédéric Chopin, quelques valses. Frédéric Chopin en ses valses jouées par Alfred Cortot. Un grand merci à Flora Sternadel et Max James. Je vous retrouve demain. Nous causerons d'Éric Satie. Enfin, c'est plutôt lui qu'on laissera vous parler. Et Dieu sait qu'il a des choses drôles à nous dire. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Marcel Quilleveret.
À réécouter sur francemusique.fr.